Je vais pas vous faire un topo sur la surveillance généralisée, sur le contrôle de plus en plus violent qui nous est imposé, souvent à l'insu de notre plein gré. Je vais pas vous faire un topo sur la nécessaire protection des données. Non, je vais vous lire plutôt quelques lignes de ce roman que j'aime tant. Un roman de science-fiction qui n'a pas grand-chose de la fiction, mais qui nous donne quelques éléments d'explication. Nous n'avons suivi qu'une ligne d'horizon unique depuis le néolithique, est-il écrit. C'est l'horizon du contrôle, externe, interne, contrôle de notre corps, de notre espace, de nos ressources, contrôle panique et de l'altérité, des autres prédateurs, des maladies, contrôle de l'accès à la nourriture, contrôle des déchets, contrôle du climat, contrôle de toute agression probable, possible, plausible. Évidemment, nous avons échoué souvent, en partie, tout le temps, mais la quête s'est poursuivie, affinée, à mesure que les menaces externes reculaient. Dans un univers anthropisé à l'extrême, comme le sont nos villes occidentales, quelle était la dernière menace résiduelle, le dernier élément à maîtriser pour atteindre la sérénité, sinon nos semblables? Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a rapproché les dispositifs de contrôle de nos corps et de nos esprits. On a cherché des espaces où l'on serait irrémédiablement à l'abri. La question c'est à quel prix? Alain Damasio, Les Furtifs, 2019.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Dans quelle mesure mon invité d'aujourd'hui résiste-t-il à la surveillance, ne serait-ce que celle de son public? Il est humoriste, et si vous le cherchez, loin de moi de vouloir le dénoncer, mais sachez qu'il sera jusqu'au 2 février au Théâtre Édouard VII à Paris, puis en tournée dans toute la France. Bonjour Haroun.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous matin. Qui nous surveille?
Il a raison Damasio, c'est nous-mêmes, on se surveille mutuellement, on se surveille intérieurement aussi.
Et pourquoi est-ce qu'on se surveille à votre avis?
Parce qu'on a peur du doute, on a peur de ce qu'on connaît pas, donc on essaie d'avoir le maximum d'informations pour essayer de prévoir ce qu'on peut pas prévoir. Et je pense qu'on se contrôle par peur de laisser échapper les choses qu'on sait pas, quoi.
Une sorte de protection extrême, effectivement. Dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie, tout autant que ça vous fascine, Haroun?
Alors moi, ça m'effraie. En fait, ça me fascine déjà par la progression de technologies qui nous permettent de contrôler, de maîtriser notre évolution. Mais ça effraie parce qu'on se demande si au nom de la perfection de l'homme, on n'est pas en train de perdre notre humanité. Donc ça me fait un peu peur, en effet, toutes ces techniques de contrôle et surtout de savoir qui va avoir accès un jour à ces informations. Pour l'instant, on a l'impression que ça reste un peu stable, mais on ne sait pas où est-ce que ça peut partir.
En fait, c'est comme ça que votre spectacle commence. En fait, au tout début, avant même qu'il ne commence, vous nous dites qu'on se laisse surveiller par le biais notamment de nos téléphones portables. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on se laisse faire, en fait? Pourquoi est-ce qu'on accepte d'être complice de ça?
Parce que le divertissement prend le dessus sur tout. Parce que on a
et tellement peur. C'est un humoriste qui dit ça.
Non, mais on a tellement peur de s'ennuyer qu'on a besoin d'activité, et cette activité-là, on est prêt à la payer très cher, surtout quand le prix n'est pas affiché. Le prix, c'est nos informations.
Quel regard vous portez sur les réseaux sociaux, vous? Parce qu'on parle de ça, là, c'est l'éléphant au milieu du magasin.
Oui, bien sûr, mais le regard que je porte, il est un peu ambigu, parce que je m'en sers beaucoup, moi, pour communiquer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur les réseaux sociaux dont on pourrait se passer et les remplacer par des choses un peu plus utiles. Il y a des choses qui sont très bien sur les réseaux sociaux, notamment pour des populations qui ont besoin de communiquer par d'autres biais. Mais on les utilise quand même pour plein de choses très très inutiles. Et ce temps passé sur les réseaux sociaux, il est parfois, je pense, perdu.
Il vous arrive parfois de crier votre désarroi, par exemple, en vous fendant d'un tweet, d'un post ou d'un hashtag, Haroun?
Pas vraiment, non. Pas vraiment. Moi, je parle pas beaucoup de mon désarroi sur les réseaux sociaux. Je m'en sers beaucoup pour montrer mes œuvres, mais j'en parle en tout cas du désarroi sur Facebook et cette espèce le fait de se soulager la conscience en se disant allez c'est bon, j'ai dit que j'étais pas content sur Facebook donc c'est bon, et je compare ça au fait de klaxonner dans un bouchon, parce que quand on klaxonne dans un bouchon, on fait chier tout le monde, mais ça sert pas à faire avancer les choses, quoi.
C'est vrai. Ce besoin de crier son désarroi dès que l'occasion se présente, de s'indigner, de s'engager aussi. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça?
Bah, par ça, parce que, en fait, on a accès à tellement d'informations, assis dans son fauteuil, dans son canapé, dans son métro, on a accès à tellement d'informations qu'on est là, on est submergé par ça, on a envie de faire quelque chose mais on peut rien faire. Et en fait au lieu de prendre des informations qui sont proches de nous et là où on peut avoir vraiment un impact localement, disons, on est là en train de voir ce qui se passe à l'autre bout du monde, on est touché forcément parce que il y a des choses qui sont très forte, et donc on essaie de réagir à ça, et on met un hashtag, et on se dit, allez, c'est bon, j'ai quand même fait ma petite part
d'engagement,
ma petite part d'action. Et en fait, à côté de ça, il y a peut-être des gens à 2 mètres de nous qui ont des choses à dire ou des choses à revendiquer, mais on les écoute pas parce qu'on est calé sur des informations qui nous dépassent.
Cette question de l'engagement, moi, dans votre spectacle, j'y ai pensé tout le temps. Il se trouve qu'au tout début, vous dites que si vous avez choisi de faire de l'humour, c'est plutôt que de la politique, en fait. Et c'est par faiblesse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Parce que les gens forts, ils disent ce qu'ils pensent. Et quand on n'est pas d'accord avec eux, bah, ils ont la puissance. Ils peuvent nous casser la gueule. Et quand on est faible, on dit ce qu'on pense. Et quand on n'est pas d'accord avec nous, on dit bon, bah, je rigole. Et c'est comme ça qu'on devient humoriste, en fait. Donc ça remplace la politique. En fait, c'est vrai que quand j'ai découvert les humoristes qui m'ont marqué, je me suis dit que c'était plus fort que la politique parce que l'humour permettait de faire passer des idées sans violence, sans taper du poing sur la table, sans avoir à dire à la police d'aller réprimer. Donc l'humour m'a montré une grande, enfin ça m'a montré qu'on peut avoir une voix grâce à l'humour. Et la politique est une voie qui est éphémère, je trouve. Enfin, ça reste pas. On oublie vite les discours politiques. Sauf peut-être quelques grandes phrases, mais l'humour, les sketchs restent inscrits. Quand j'écoute encore Coluche, j'ai l'impression que il parle de la semaine dernière.
Pour autant, quelle est votre grande faiblesse, à vous, Haroun, à votre avis?
Moi, j'en ai plein des faiblesses. Je pense que ma grande faiblesse, c'est ma passion. C'est-à-dire que je suis tellement omnubilé par l'humour. Par l'humour, faut pas se tromper, on est sur France Inter.
Bah non, attention.
Je suis tellement omnibulé par ça que j'arrive pas à voir les choses de manière autre que par la dérision. Et je pense que c'est une déformation professionnelle. Exactement comme, je sais pas, peut-être un peintre, quand il voit un paysage, il le voit plus en tant que tel, il le voit comme avec un ensemble de couleurs, de dégradés, il voit pas les choses comme nous. Donc peut-être que parfois je me trompe sur ma vision et peut-être que ça j'en propose une autre, mais ça rend faible ce que je peux percevoir aussi, parce que je suis toujours dans la dérision et dans cette déformation, quoi.
Mais force est de constater que vous vous appuyez vraiment tout le temps, Haroun, sur l'actualité. C'est forcément s'engager un peu, ça, non?
Moi, j'aime pas le terme engagement collé à l'humour, parce que j'ai peur d'être confondu avec des gens qui s'engagent vraiment, qui font des vraies choses. Moi, mon seul engagement, c'est de faire des blagues. C'est que les gens sortent du spectacle en ayant rigolé. Et ça, je prends pas grand risque, en fait. Il y a des gens qui prennent vraiment des risques, il y a des gens qui donnent vraiment de leur personne. Il y a même des humoristes qui sont vraiment engagés. J'en parlais hier avec Alain Mabankou, qui me parlait des humoristes en Afrique, ou on en parlait aussi des humoristes en Égypte, qui sont censurés, qui ont des menaces de mort et tout. Là, on est dans l'humour engagé. Moi, je suis relativement tranquille.
C'est vrai que les actualités, vous les choisissez.
Je les choisis, et puis surtout que on se plaint souvent, mais en France, quand même, on a la capacité d'accepter beaucoup de choses que les gens peuvent dire. Alors, parfois, il peut y avoir des gens pas contents, mais c'est pas autant de risques que les gens qui s'engagent vraiment pour faire changer les choses dans un pays où vraiment.
Alors, quel est le rôle de l'humoriste, pour vous?
Bah, il révèle les choses. C'est comme si on avait un médium qui nous permet de décrypter les choses avec une autre émotion. Il y a des dramaturges qui nous parlent de sujets en nous faisant pleurer, mais les humoristes nous parlent de sujets en nous faisant rire, et ça permet de mettre une émotion sur une information. Et moi, j'espère juste que les gens, quand ils sortent de la salle, ils se disent que le sujet dont j'ai parlé, ils peuvent s'en emparer parce qu'ils sont dédramatisés.
Est-ce que l'humoriste divise ou est-ce qu'il soude? Parce que là, c'est une question que vous posez sans arrêt dans votre spectacle en vous adressant au public. On va ressouder un peu le public.
J'espère qu'il soude. À partir du moment où il divise, ça veut dire qu'on a raté quelque chose quelque part. Parce que le L'humour étant une émotion, si on n'arrive pas à procurer cette émotion à quelqu'un, ça veut dire qu'on a raté quelque chose.
Mais vous le faites par des clichés. Vous dites, allez, un bon cliché, ça ressoude, ça, immanquablement un public.
Oui, parce qu'en fait, ouais, c'est sûr. C'est en fait le cliché, c'est une espèce de conscience qu'on a tous, c'est la conscience commune sur un sujet, et on s'autorise à rigoler dessus parce que c'est bon, c'est un cliché accepté.
Donnez-nous un exemple.
Bah alors. En fait, bon, je parle de, c'est particulièrement, vous êtes pas sympa parce que faut que j'écrive une blague dure. Je parle de l'Holocauste, en fait, je parle de l'Holocauste de Patrick Devedjian un jour qui a dit les Allemands nous ont pris nos Juifs, ils nous rendent des Arabes. Et donc je prends cette citation, je la tire à l'extrême. J'imagine les Allemands qui sont venus chez Devedjian, qui lui ont pris ses Juifs, alors qu'il les a trouvés tout seuls. Enfin, il est quand même énervé parce qu'il est assez près de ses Juifs. Et ils lui ont pris ses Juifs et en fait ils ont remplacé secrètement par des Arabes en disant qu'il allait. C'était un peu pareil, ça se ressemblait. Devedjian, il est content, il rentre chez lui, il a ses Arabes, sauf qu'il pense que c'est des Juifs. Il cherche sa télécommande et en fait il s'est fait voler sa télé. Et les gens à ce moment-là rigolent, mais je pense qu'ils rigolent pas vraiment du cliché sur l'arabe voleur, il rigole du cliché de l'arabe qui s'est fait justice lui-même auprès de quelqu'un qui a sorti une citation qui est vraiment dure. Et à ce moment-là, donc il y a le fait de se rendre justice soi-même, mais il y a aussi le fait de se soulager. On se dit, ah c'est bon, ce code-là on l'a, ce truc-là c'est bon, c'est accepté, on en rigole de ce cliché, et donc ça crée une autorisation, tout le public rigole. Mais je pense aussi qu'il rigole de soulagement par rapport à la dureté de la vanne.
Il peut y avoir un bon usage du cliché. J'ai l'impression que c'est à ça que vous nous invitez à réfléchir aussi, Haroun.
Oui. En fait, je pense pas que le cliché n'existe pas. Je pense que c'est intéressant de le soulever. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que faut laisser le bénéfice du doute à chacun. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un cliché sur toi que tu corresponds à ce cliché. Par contre, nous, on joue beaucoup avec les clichés, les humoristes, et c'est important de le faire, mais aussi pour les déconstruire. Mais en fait, là où je joue aussi avec les clichés, c'est que je joue avec ma propre stupidité et mes propres jugements, et donc parfois je prends le rôle d'un raciste, je prends le rôle de quelqu'un qui a beaucoup de préjugés sur les gens, pour pouvoir déconstruire tout ce qu'on pense, quoi.
Celle qui use et abuse des clichés dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, Haroun, c'est la culture et son actualité qui manque souvent de finesse, disons-le clairement. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 16 décembre? ans et toutes ses dents, l'Allemagne est célèbre dès aujourd'hui pendant toute l'année 2020 le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Près de 700 festivités sont prévues dans tout le pays, à commencer par la réouverture de la maison du compositeur à Bonn, avec l'exposition de ses partitions, instruments et livrets de conversation grâce auxquels il s'exprimait une fois devenu sourd. Autre temps fort, le 16 mai, le groupe culte Kraftwerk donnera un concert hommage au compositeur à la bonne heure.
D'abord, je pense qu'il faut une grande curiosité, parce qu'on balaye tous les champs de la création.
Révolution, à la tête du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, une femme a été nommée à la tête de l'institution. Elle s'appelle Émilie Delorme et dirigeait jusqu'à présent l'Académie du Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence. Cette nomination en rupture avec l'usage n'a pas manqué de faire grincer les dents de certains médias, inquiets des prises de position d'Émilie Delorme en faveur de la parité et de la diversité. You go girl! C'est notre douceur du lundi. 20 ans après le succès de Tu m'oublieras, La Rousseau prépare son grand retour avec un quatrième album attendu pour le printemps prochain. Pour nous faire patienter, la diva aux cheveux de feu vient de révéler Monopoly, un morceau inédit accompagné de son clip de qualité. Toujours sur la route avec la tournée Nostalgie Born in 90, La Rousseau dit avoir enfin retrouvé la force forever dans notre cœur.
Écrire pour moi, c'est avant tout une manière de vivre. Well done, Mike.
Et le Royaume-Uni envoie Dubois, déjà concorisé en France. Le roman de Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, vient de recevoir le choix Goncourt du Royaume-Uni, nouvelle récompense qui vient d'être créée outre-Manche. Il a été choisi par les étudiants de 7 universités réparties dans les 4 nations du pays. Le Royaume-Uni devient ainsi la 20e nation à accueillir le choix Goncourt, déclinaison internationale de notre récompense littéraire tricolore au top Jean-Paul. Et l'humoriste Haroun, invité de Boomerang ce matin pour son seul en scène, un spectacle qui témoigne, on l'a compris, c'est assez réjouissant, d'une réelle fascination pour la rhétorique, pour la façon dont s'articule un discours, cette passion pour le langage. Quand est-ce qu'elle est née, Haroun?
C'est difficile de définir une date, mais Mais je sais que très jeune, j'aimais beaucoup les rédactions. À chaque fois, j'étais très content quand on me demandait d'écrire des choses, raconter vos vacances, etc. Et là, à ce moment-là, j'étais très sérieux, beaucoup plus que dans les autres matières. Et moi, je pense que j'ai commencé vraiment à aimer cette manipulation des mots avec l'humour, et quand j'ai découvert, c'était l'époque Canal vraiment un peu faux-folle, et j'aimais beaucoup regarder les Deschiens, j'ai vu les pièces des Deschiens où parfois j'utilisais très peu de mots, et j'adorais tout ce que pouvaient nous proposer les humoristes à ce moment-là.
Vous aviez conscience déjà que le langage pouvait être une arme qu'on sous-estime parfois.
Ah ouais, bien sûr. Vraiment, j'ai été marqué par Coluche. Hein. J'ai été marqué par Coluche parce que j'en rigolais petit et je voyais les adultes aussi qui en rigolaient.
Oui.
Et cette espèce d'effet transgénérationnel, ça m'a vraiment fasciné. Et quand j'ai compris ensuite les blagues, ce qu'elles voulaient dire exactement, comment ils jouaient avec les doubles sens, ça m'a vraiment fasciné. Et après, quand j'ai vu des proches, ça m'a encore plus transporté. Donc oui, j'ai vu la puissance de ces gens-là.
Mais c'est intéressant que vous parliez de vos rédactions d'enfance, parce qu'à un moment donné, dans votre spectacle, Haroun, vous vous attaquez à ceux qui, d'une certaine façon, font l'éloge de l'ignorance, en disant par exemple que l'école ne sert à rien. Vous pensez à qui? Vous pensez à quoi? Quels sont leurs réseaux?
Non, il y a beaucoup de gens qui montrent ça, surtout dans le divertissement. On a l'impression que c'est à la mode d'être ignorant, c'est à la mode de mal parler, c'est à la mode de pas trouver ses mots. On trouve pas ses mots, on dit ah c'est bon j'ai oublié, c'est bon avec tes mots là. Et une espèce de mode comme ça, être stupide. Alors je parle pas de la mode d'être un cancre. Il y a toujours eu la mode d'être un cancre. Il y a toujours eu cette fascination pour celui qui est au fond de la classe et qui fait rire tout le monde. Mais moi ça me fait peur un peu le fait de montrer aux enfants que être trop cultivé c'est se la péter. Être trop cultivé c'est quitter son monde. Enfin j'en parle parce que j'ai lu un livre de Didier Ribon qui parle très bien de ça et il dit.
Pensez à Retour à Reims.
Ouais, c'est ça. Où il s'est émancipé de son milieu, même si son milieu essayait de le maintenir dans l'absence de culture. Donc on lui reprochait le fait de lire des livres. Et ça me fait peur, moi, ça, le fait que le milieu nous encourage à rester médiocre, mais de la même façon. N'importe quel milieu peut nous encourager à pas aller vers un autre milieu. Et celui-là, en tout cas, enfin, le fait de s'intéresser aux mots, à la lecture, je pense qu'il faut, essayer de rendre ça stylé, en fait. Il faut essayer de rendre ça à la mode. Et c'est ce que j'essaie un peu de faire avec les blagues. Et c'est ce que j'essaie de faire en me moquant de ceux qui disent que l'école ne sert à rien. En disant qu'ils sont pas allés assez longtemps à l'école pour savoir si ça sert vraiment à quelque chose ou pas.
C'est vrai. Le théâtre, il est arrivé quand pour vous?
Le théâtre, il est arrivé relativement tard. Il est arrivé pendant mes études supérieures. J'osais pas vraiment m'y lancer. Je faisais de la danse avant, de la danse hip-hop. Et j'ai découvert le théâtre d'impro, puis le théâtre en participant à un festival de théâtre étudiant. Et j'ai découvert le fait d'apprendre un texte par cœur, le fait d'avoir la pression de se planter dans son texte.
Et l'improvisation, c'est un art que vous avez pratiquement théorisé. Ça repose sur quoi? Pour vous?
Ça repose sur beaucoup d'acceptation. Ça repose sur le fait que tout ce qui se passe peut être utile et tout ce qui se passe de toute façon se passe. Donc il faut absolument que je l'accepte. Et ça, c'est fascinant à quel point ça peut nous apporter dans la vie. Parce qu'on a peur d'improviser souvent, alors qu'on en est capable à partir du moment où on se dit, bah voilà, c'est arrivé, va falloir que je réagisse à ça.
Vous lui laissez beaucoup de place à l'improvisation dans votre spectacle? Dans votre écriture, en fait?
Alors dans l'écriture oui, parce que j'écris, ensuite je dis mon texte et je le laisse un peu voguer, je le laisse un peu me découvrir et moi je le découvre et donc je vois un peu comment il sort. Et dans l'improvisation parfois je trouve des choses, mais ça ce sont des choses que j'expérimente pas vraiment en spectacle. C'est plus dans les scènes ouvertes, dans les endroits où c'est un peu plus organique, le public est un peu peut-être moins attentif parfois, donc ça me permet d'expérimenter les choses.
Mais et votre spectacle se termine par des tests justement?
Exactement. Alors, oui, ces tests-là, en fait, oui, tout à fait. Ces tests-là, là, ils sont un peu éprouvés quand même, mais je cherche encore, et il y a encore des choses que je trouve dans l'impro. Par exemple, en fait, l'impro nous permet de réagir face à un bide. Et quand une blague ne marche pas, avec l'impro, on peut essayer de la rattraper. Et parfois, on découvre des choses très très puissantes qui permettent de rattraper un bide et de garder ça, de garder cet effet bide spectaculaire.
À vous entendre, ça donne de la confiance.
Ah, tout à fait, oui, bien sûr. Et en fait, on ne prend pas grand risque sur scène à partir du moment où on accepte ce qui nous arrive.
Il n'y a rien qui vous fait douter, vous ?
Non. Non, non, il n'y a pas grand chose qui me... Si, bien sûr, je doute toujours de ce que j'écris. Est-ce que c'est assez collé à ce que je veux exprimer, surtout quand les idées sont un peu compliquées?
Oui.
Là, je peux douter de mon texte parce que je me dis, je suis pas assez clair, je suis pas assez précis. Par contre, j'ai pas vraiment peur de ce que va penser le public parce que je suis sûr que la plupart du public est bienveillant.
Par exemple, quand vous faites une vanne sur l'Afrique et le sida, une autre sur le conflit israélo-palestinien, une autre sur la faim dans le monde, Haroun, quelle question est-ce que vous posez, y compris pendant que vous la jouez, cette vanne?
Je me pose la question de est-ce que l'Africain dans la salle va rigoler à ma blague? Est-ce que le Palestinien ou l'Israélien va rigoler à ma blague? Je me pose toujours la question de les personnes concernées, est-ce qu'elles vont accepter cette blague-là?
Et puis du fait aussi qu'on accepte difficilement d'un humoriste qui parle de choses cruelles.
Je pense au contraire qu'on attend d'un humoriste qui parle de choses cruelles. Je pense qu'au contraire, on attend qu'un humoriste mette des émotions positives sur quelque chose de cruel. Et on a besoin de ça. Et le rôle du bouffon du roi, c'est de se moquer du roi. Et le roi a besoin de ça aussi pour montrer, en acceptant le bouffon, que c'est quelqu'un de clément, que c'est quelqu'un d'humain. Et pour que le public autour, qui voit le roi rigoler, se dise, ah, c'est quand même quelqu'un qui a un cœur.
C'est qui le roi? Pour vous?
Là, en ce moment, c'est tous les puissants, les GAFA, le gouvernement, et ceux qui essaient de nous faire penser à leur façon, en fait. Ceux qui essaient de nous mettre des barrières dans la pensée, ceux qui essaient de mettre aussi, de mettre l'émotion avant la raison, ce qui fait qu'ils polluent le débat, et En tant qu'humoriste, moi, j'essaie aussi de m'emparer de sujets avec tellement de recul que je suis assez froid sur la manière d'aborder les sujets. Et donc, j'essaie de le dénuer d'une émotion pour la remplacer par le rire.
Passionnant, quand même. On va reparler de tout ça, évidemment, Haroun, juste après un petit Elvis. On parlait de cruauté Don't Be Cruel en 1965. Vous êtes sur France Inter. Vous écoutez Boomerang, évidemment. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who a heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Boomerang sur France Inter.
Augustin Trapenard.
En fait, c'est marrant parce qu'on est quelque part entre le petit agneau du petit Nicolas, vous savez, le premier de la classe, le chouchou de la maîtresse, le petit agneau et le loup de Wall Street, le gendre idéal aussi. C'est un rôle de combo, en fait. Il a la lunette affable, le cheveu assez bien peigné, l'œil opération séduction et le sourire d'enseigne. On lui donnerait le bon Dieu sans confession et croyez-moi, on ne devrait pas avec son pull Bordeaux ce matin. L'humoriste Haroun, invité de Boomerang pour son seul en scène qui porte son nom. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de gestes, de mouvements, de corps avec vous parce que c'est par la danse, effectivement, que tout a commencé pour vous, par le breakdance. Pourquoi le breakdance, d'ailleurs?
Parce que j'ai vu un passage de 20 secondes dans la haine avec des breakers dans un hall et j'étais collé à ce passage et je le remettais en boucle et j'ai eu envie de faire ça. Et je suis rentré là-dedans par ça et j'ai découvert une discipline qui est à la fois créative et sportive et qui demande beaucoup d'entraînement, mais je me suis pris de passion par cette discipline.
Quoi. Et il en reste quoi du breakdancer que vous étiez, chez l'humoriste, chez l'homme de scène que vous êtes aujourd'hui? Parce que pour être honnête, votre gestuelle reste assez minimaliste durant le spectacle, excepté le moment où vous faites le dinosaure, le poulpe ou le poule pingouin.
Ce qu'il en reste, c'est déjà j'ai rencontré mon metteur en scène par la danse. Et lui, il est danseur, et il nous en reste le fait de pas avoir peur de travailler, de répéter, de rechercher encore le mouvement qui a pas été créé. Pour ça, la danse était une très très bonne école.
Ça veut dire qu'une vanne est toujours accompagnée d'un geste?
Non, c'est pas ça. C'est le travail du danseur est assez ingrat. C'est-à-dire qu'il faut des heures et des heures de travail, de répétition pour sortir parfois un seul geste. Et le public le voit même pas, que ça a demandé des heures, mais pour retomber sur ses appuis parfaitement, il a fallu beaucoup d'heures de travail et ça nous a forgé en fait notre discipline de travail.
Alors c'est intéressant parce que ça dit quelque chose de votre perception de l'humour comme un art de la précision en fait. Est-ce que ça serait la perfection que vous visez?
Oui. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de même quand on se trompe, il faut que ce soit rattrapé. Et quand on est breaker, quand on est dans une arène de battle, on se trompe, on tombe, et il faut pouvoir se rattraper pour faire comme si ça faisait partie de cette choré qu'on avait créée et qu'on n'était pas tombé.
Ça veut dire que la perfection d'une vanne, elle tient aussi au trébuchement.
Oui, tout à fait. Et en fait, à force de travailler, on arrive à retomber sur ses pattes et quand on arrive à avoir ces moments-là, c'est des moments de grâce.
Il faut être drôle aussi.
ça c'est l'autre partie, mais en effet c'est aussi apprendre à connaître sa façon de faire, son rythme pour que les gens soient toujours rassurés, parce que être drôle c'est aussi rassurer le public sur le fait que c'est drôle, donc c'est aussi rassurer le public sur le fait qu'on maîtrise. Quand le public nous sent mal à l'aise, il n'arrive pas à rigoler, il a une empathie pour nous qui fait qu'il n'arrive pas à se lâcher.
Vous nous avez écrit un texte aujourd'hui, un texte sur le respect.
Ouais, parce qu'en fait, on entend un peu partout qu'il y a plus de respect, que le respect est mort. Le mot qui est dit souvent, enfin la petite maxime qui est dit, c'est le respect est mort. Il y a plus de respect, le respect est mort. Et je me suis imaginé que le respect était vraiment mort. Donc j'ai écrit une oraison funèbre au respect. On entend un peu partout que le respect est mort. Le respect est mort. Vive le respect. Le respect est mort. Vive le respect. On ne sait pas qui est responsable de ton assassinat, le respect. L'enquête est en cours, chacun y va de sa théorie. Mais pour l'instant, l'heure est au recueillement. On dit que ce sont les meilleurs qui partent les premiers. On devrait plutôt dire qu'on s'aperçoit que ce sont les meilleurs qu'une fois qu'ils sont partis. On ne peut pas dire qu'on a été surpris. Avec l'avènement des réseaux sociaux, ça se voyait que tu avais pris un coup dans l'aile. On se demandait, mais après tout, il est solide, il va s'en sortir, non? Il en a vécu d'autres. Et puis petit à petit, avec l'augmentation de l'écart des richesses dans le monde et dans le pays, on commença à s'inquiéter. Quelqu'un a des nouvelles du respect? Se demandait-on un peu inquiet. Ouais, moi je l'ai vu il y a quelques mois, il avait l'air... moyennement en forme, mais bon... Puis les talk-shows, les phrases assassines, les buzz et même certaines lois liberticides auraient dû nous mettre la puce à l'oreille. Et puis un jour, plus de respect. Le respect est mort. Vive le respect. La rumeur s'est répandue sans trop surprendre. Le respect est mort, je pensais que c'était déjà le cas, moi. Et d'un coup, tout le monde s'est mis à te réclamer. Les gilets jaunes, d'abord, les réfugiés, les étudiants, les urgentistes, les infirmiers, les médecins, les ouvriers, les chômeurs, les avocats, les retraités, les femmes, les musulmans, les juifs, les LGBT, les pompiers et même les policiers prennent conscience aujourd'hui de ton absence. J'en oublie, bien sûr. La nature aussi demande du respect. Puis aujourd'hui, l'ensemble de la population sent qu'il y a un manque de toi. On te pleure un peu partout parce qu'on sent bien que sans toi, la société ne peut pas avancer. Alors si tu manques à tout le monde, qui aurait eu intérêt à tuer le respect? Oui, c'est vrai qu'on est tous un peu responsables de ta mort. Peu de gens se sont vraiment dressés contre ces courses à l'audience qui encouragent l'insulte, ces recherches effrénées de clics qui encouragent les images violentes. C'est vrai qu'il est arrivé qu'on t'oublie, assez souvent même, mais que veux-tu, on manifeste souvent avec de la colère, une émotion pas vraiment compatible avec toi. Et il y a là un paradoxe, plus tu disparaissais, plus la colère montait, plus tu disparaissais. Mais comment demander le respect à celui qui le recherche ? Et nous voilà réunis devant ton cercueil à se demander ce qu'on va faire sans toi. Peu importe qui est responsable, ça ne te fera pas revenir. Mais dans cet instant de recueillement me vient une autre question. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de la dignité ?
Haroun, merci pour ce texte, cette oraison funèbre autour du respect. Pour la dignité, faudra revenir. Et pour le moment, restons sur le respect. Réanimer, ressusciter le respect, ça passerait par quoi ?
Ça passerait par l'écoute. Et ça serait bien d'écouter un peu tout le monde et de leur faire confiance quand ils disent des choses. Moi, je suis assez impressionné par le fait que quand quelqu'un exprime sa douleur, quand quelqu'un exprime son émotion, ils disent « Non, c'est faux ! Tu ne penses pas ça, tu ne sens pas ça. J'arrive pas à comprendre ça. » Quand quelqu'un est dans un mal-être, il faut essayer de l'écouter un peu plus. Quoi.
On ne nous écoute pas.
On ne s'écoute pas.
Et on ne s'écoute pas soi-même.
Ouais.
C'est intéressant parce que ça dit aussi quelque chose de ce que c'est qu'un spectacle et si ça repose là-dessus, justement, sur l'écoute.
Ça repose quasiment que là-dessus. Un public qui n'écoute pas, on ne peut rien lui transmettre. Et un humoriste qui n'écoute pas son public n'arrivera pas non plus à transmettre. Il faut vraiment être très à l'écoute de son public dans la microseconde d'écoute, parce que parfois il y a un applaudissement qui part, un rire qui part au moment où on s'y attend pas, ou au moment où on pensait qu'il allait avoir un rire, il y a pas de rire.
Et qu'est-ce que ça change ?
Eh bien, ça change que la rythmique change tous les soirs et que on a l'impression de vivre un spectacle différent tous les soirs. Mais et ça change aussi le fait de rester dans un spectacle vivant. Il faut rester organique. Et dans le théâtre, on a l'impression que c'est toujours le même texte, mais en fait, les comédiens arrivent à répéter leur texte tous les soirs parce qu'ils changent dans la microseconde, parce que le public n'est pas le même. Et le public n'est pas une masse qui est toujours la même. Le public est très organique, en fait, et ça devient une sorte de cataplasme qui change tout le temps. Quoi.
En fin de compte, quand vous êtes sur scène, Haroun, vous parlez à qui ?
J'essaie de parler à chacun dans la salle. Et peut-être aussi que j'essaie de parler un peu à moi-même parfois, parce que j'ai besoin. La raison pour laquelle le spectacle s'appelait à la base Tous Complices, c'est parce que je me sens aussi responsable de ce que je critique.
Et maintenant, il s'appelle Haroun.
Il s'appelle Haroun parce que c'est devenu un spectacle de présentation et il traite de tellement de sujets différents que voilà, c'était un spectacle de développement et il s'appelle Haroun parce que c'est, en fait, les gens viennent voir un humoriste davantage qu'un titre de spectacle.
Vous le regrettez, ça ?
Parfois un peu, parce que maintenant j'ai écrit plusieurs spectacles et j'ai besoin de les nommer pour savoir où est-ce que j'en suis.
Merci infiniment, Haroun, d'être venu
plaisir.
Faire un tour dans cette émission.
Très
je rappelle honoré. Que votre spectacle, Haroun, donc, se joue au Théâtre Édouard VII jusqu'au 20 février.
Jusqu'au 2 février.
Avant une tournée dans toute la France. On va évidemment beaucoup en reparler.